prendre une grosse claque.
Il y a donc Table ovale sans ellipse après de grandes vacances, après les grandes vacances. Alors je rappelle que Table ovale, parce qu'elle n'est ni ronde ni carrée, à cause de ça, elle était vraiment ovale. À Villefranche, c'est un peu plus bizarre, mais en tous les cas, elle n'est ni ronde ni carrée. Et sont réunis donc autour de la Table ovale les représentants des partis politiques locaux, à savoir pour le Parti communiste Romain Roland Vaste, pour le Parti socialiste Lionel Lacroix, pour les Verts Jean-Louis Calmette, pour l'UMP Bernard Canac et pour le MoDem François Jeannaudet. Je ne sais pas quel ordre a pris Geneviève pour installer ça, mais ça n'est pas l'alphabétique, je vous entends, pardon, n'y voyez aucune malice. Alors notre sujet de ce soir, mais avant de l'aborder, je voudrais quand même vous poser à tous une question, puisque j'ai autour de la table des responsables, vous êtes ou secrétaire ou président de partis politiques, il y a même un adjoint au maire à Decazeville, il y a un attaché parlementaire, c'est bien le diable s'il n'y a pas un trésorier ou un vice-président d'association. Normalement, je voudrais savoir lequel d'entre vous pense ne pas être fiché.
Bon, je vais peut-être me lancer, mais je pense que nous sommes ici présents tous fichés.
Bon,
alors. Et nous sommes des futurs clients du fichier Edwige.
Alors, ça me conduit à Edwige, parce que ça Edwige a soulevé beaucoup de crises. Il n'existe plus, paraît-il. Hein. Je crois que ça, il s'appelle plus pareil, Gertrude, ou enfin, j'en sais rien, mais Cunégonde. Puisque vous savez, j'allais dire vous reconnaissez, non, vous savez que vous êtes, que nous sommes tous fichés, pourquoi tout ce mouvement autour d'Edwige? Ben alors les Verts, puisque vous vouliez vous lancer, Monsieur Calmette.
Mais parce que c'est un fichier de plus qui va se croiser avec d'autres fichiers, et je trouve quand même que c'est assez liberticide. Et puis c'est surtout des notions qui rentrent en jeu, comme soi-disant la sécurité publique, et c'est la porte ouverte à n'importe quelle interprétation.
Oui, le MoDem.
Oui, je voudrais dire tout d'abord que si nous pouvons parler ce soir du fichier Edwige, c'est certainement grâce au mouvement démocrate, hein, puisque c'est notamment Corinne Lepage, vous le savez, qui est vice-présidente du mouvement démocrate, qui a soulevé ce gros lièvre, hein, puisque ce décret a été publié le 27 juin de cette année, juste avant les vacances, comme d'habitude, pour les choses un petit peu désagréables. Voilà, alors c'est un premier préalable, hein, que je voulais dire, et je crois que c'est important de pouvoir le dire. Hein, le MoDem est à la pointe dans ce débat. Voilà, alors pour nous, on pourra peut-être le détailler, bien sûr. Edwige est une arme redoutable, hein, qui est pointée vers chacun de nous, ça vous l'avez bien dit, à trop libre disposition de tireurs multiples, on pourra le détailler, hein, et à usage insuffisamment précisé. Alors je crois effectivement que ce décret est contesté. Il est normalement suspendu, mais on en attend, je crois, encore la preuve, hein, puisque le tribunal n'a pas encore rendu sa décision.
Mais d'après vous, que va-t-il y avoir de plus dans les fiches d'Edwige que dans celles qui existent déjà, Monsieur Vaste, pour le Parti communiste?
Moi, je crois que c'est quand même une structure qui marche sur la suspicion. Moi, je le vois dans la lignée du 19e siècle, là, des socio-biologiques avec les mensurations du crâne, le docteur Alonso et compagnie, là. C'est-à-dire qu'on est catégorisé à risque avant même d'avoir commis le moindre délit ou le moindre acte susceptible de porter atteinte à la sécurité. C'est dans la lignée de la guerre préventive de Monsieur Bush, etc. C'est extrêmement dangereux pour les libertés.
Monsieur Canac, normalement, vous n'êtes pas trop contre, vous, pour l'UMP.
Concernant le fichier Edwige, qui a défrayé la chronique il y a quelques semaines, vous savez, l'actualité, ça va comme une sinusoïde. Ça a des temps forts, ça a des temps faibles. Edwige, aujourd'hui, plus personne n'en parle. Et si effectivement c'était une arme aussi redoutable que ce qui vient d'être dit, je pense qu'on en parlerait encore. Edwige, c'est un nouveau fichier qui n'a pas un but curatif, mais un but préventif, et qui doit servir, dans le cadre du respect de la loi, aux forces de police, de gendarmerie, pour identifier, pour reconnaître un certain nombre d'individus. Je rejoindrai M. Calmette en ce sens qu'il vient s'ajouter à d'autres fichiers, mais c'est un fichier très particulier qui n'atteint pas plus que d'autres à la liberté individuelle. Vous savez, moi je travaille à l'hôpital et on a tous un dossier médical dès l'instant où on est passé entre les mains d'un médecin ou d'un praticien X ou Y. Et dans ce dossier médical, les données sur sa propre personne sont infiniment plus précises et plus importantes que ce que l'on va retrouver dans Edwige. Et le dossier médical est accessible à tout le monde, de par la loi Kouchner. Donc moi je ne vois pas pourquoi une polémique aussi importante a été faite sur ce fichier, dont un certain nombre de choses vont être revues, peut-être parce qu'elles n'avaient pas été insuffisamment précisées ou insuffisamment expliquées. Moi j'ai tout à fait confiance à Michel Alliomari et à ses collaborateurs pour présenter in fine un fichier qui serve à répondre à une des préoccupations essentielles de nos concitoyens, c'est-à-dire leur sécurité.
Monsieur Lacroix, pour le Parti Socialiste.
Je suis pas sûr que ce soit un sujet qui n'intéresse personne, sinon on n'aurait pas eu, je pense, une mobilisation aussi importante des Français et de l'opposition au Parlement. Juste une anecdote, aujourd'hui la mobilisation sociale, elle s'exprime aussi par Internet, et une pétition a circulé qui demandait la suppression du fichier Edwige, et on est arrivé à des records, je crois, en matière de pétition électronique. J'ai plus le dernier chiffre, mais je pense qu'on doit même dépasser
215 000.
Voilà, j'allais dire 200 000. Et vous dites, Monsieur Canac, que ce fichier, c'est un fichier de plus, ça je le reconnais. Le problème, c'est l'utilisation. Mais un fichier comme ça de renseignement, automatiquement, il atteint aux libertés individuelles et fondamentales. Et la justification normale de ces fichiers, c'est l'intérêt général, la sécurité publique. Donc la question, par essence, ce nouveau fichier, il va à l'encontre du respect de la vie privée de tout le monde, mais normalement au sens de l'intérêt général. Ça, normalement, tout le monde a droit.
Alors en quoi va-t-il à l'encontre de la vie privée enfin, va-t-il plus à l'encontre de la vie privée que les autres?
Le problème
fichiers.
Par rapport au fichier de vie, c'est ce que je dis, c'est l'utilisation. Qu'est-ce qu'on en fait nous, au Parti Socialiste, on ne pense pas que ce soit l'instrument indispensable pour prévenir la délinquance. C'est des méthodes pour repérer, peut-être, et je ne sais pas jusqu'où on ira avec ce type de fichier, mais la prévention de la délinquance, elle passe par d'autres outils, par d'autres solutions que ficher les gens, de les marquer. Le problème, c'est que dans ce fichier-là, une des originalités pose la question des mineurs. Je pense qu'on en reparlera. Jusqu'à quand on garde les informations aussi, ça, c'est une question. Est-ce que si on fait une petite infraction et qu'on est sanctionné à la jeunesse, est-ce que dans 30 ans, le jour où on passe un concours de la fonction publique, on doit être confronté à ces erreurs de jeunesse-là? Nous, on ne le pense pas. On doit fixer des règles parce qu'on touche à des libertés fondamentales et que chacun a droit au respect de sa vie privée.
On va, juste pour conclure, puisque le seul qui soit pas défavorable, c'est Monsieur Canac. Donc, deux mots sur la non-atteinte ou l'atteinte à la vie privée et aux libertés publiques.
Quelles sont les notions que l'on trouve en plus dans Edwige que l'on ne trouve pas ailleurs?
Oui, le madame.
Oui, si vous voulez, je voudrais quand même revenir un petit peu.
Non, mais essayez de répondre à cette question précise, qui finalement est la source de toute la polémique qui a été faite sur le fichier Edwige. Parce que si c'est un fichier qui ressemblait à des fichiers existants précédemment, il n'y aurait pas eu autant de polémiques. Donc, quels sont les éléments aujourd'hui qui différencient Edwige d'autres fichiers?
Alors, je vais vous donner la réponse, elle est très simple. Il suffit de lire le décret d'application.
Faites-nous grâce à la lecture du décret d'application.
Non, mais c'est justement en lisant la lecture que vous allez comprendre l'étendue des informations. Alors déjà, premièrement, je vais répondre en disant que ce n'est pas un seul fichier, mais c'est un mélange de trois fichiers, puisqu'il répond à trois missions différentes. C'est-à-dire qu'on va trouver dans ce fichier toutes les personnes qui exercent un mandat, quel qu'il soit, syndical, politique, professionnel. Donc ça, c'est quand même déjà très important.
Et vous croyez qu'aujourd'hui, les cinq personnes qui sont aujourd'hui autour de la table ne sont pas fichées quelque part.
Je le regrette certainement. Hein.
Mais ça vous gêne en quoi ?
C'est pas une raison.
Ça vous gêne en quoi ?
Mais si vous voulez me laisser répondre.
Je vous laisse répondre, mais dites-moi, ça vous gêne en quoi ?
Ça me gêne parce que déjà, ce mélange de trois fichiers, c'est déjà contraire au principe de la loi où les fichiers ne doivent pas être interconnectés. Tout à l'heure, vous citiez l'exemple du fichier médical. Ça m'étonnerait que dans le fichier médical, on trouve des informations du type immatriculation des véhicules, informations fiscales et patrimoniales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même important. Ah, tout ouais. Ceci parce que j'exerce un mandat syndical ou un mandat professionnel. Hein, voilà. Il y a énormément de choses. Donc, les adresses physiques, les signes physiques particuliers objectifs, les titres d'identité, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un titre d'identité, les déplacements et antécédents judiciaires, le motif de l'enregistrement des données, etc. Alors, énormément de choses, si vous voulez. Je reviens un petit peu sur cette mélange, il faut bien comprendre ça, cette mélange de trois missions. Hein, donc, toutes les personnes qui exercent un mandat, je l'ai déjà dit, toutes les personnes qui sont susceptibles de poser un problème à l'ordre public, hein, donc, j'espère quand même qu'on ne mélange pas les gens qui exercent un mandat quel qu'il soit, avec les personnes qui sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Pourtant, et puis tous les gens qui sollicitent un emploi dans la fonction publique.
Ça a été changé.
Publique.
C'est devenu à la sécurité publique. Voilà. C'est plus l'ordre public.
Déjà, pour moi, la confusion de ces trois missions correspond pour moi à une interconnexion de trois fichiers qui existent certainement. Je ne suis pas naïf au point de penser cela. Mais déjà, cette volonté, cette puissance qui est donnée à cette interconnexion naturelle me paraît quand même un peu difficile.
Une dernière question sur Edwige, et puis après on va passer à notre autre sujet, si vous le voulez bien. A-t-on une idée de la façon dont seront collectés, parce que ce que vient de nous dire M. Genodet, de la façon dont seront collectées ces données, on va envoyer des questionnaires aux gens
Non, justement, c'est ce qui est grave, c'est que c'est un fichier qui est fait sur du ressenti des enquêteurs, et pas sur des faits commis, essentiellement. Donc c'est vraiment très aléatoire et très liberticide.
C'est-à-dire que ça existe, c'est vraiment exactement comme
comme faisaient les renseignements généraux, dont je souhaiterais aussi la disparition, pour compléter ce que disait M. Canac. Je souhaite la disparition de tous les fichiers, et je souhaite aussi la disparition du futur fichier Christina, qui est en train de se monter aussi. Je vois pas pourquoi on serait fiché parce qu'on fait partie d'un mouvement politique, parce qu'on fait partie d'un mouvement syndical, parce que on a fait une bêtise à 13 ans et qu'on doit le garder jusqu'à 18 ans et peut-être plus loin. Pour moi, ça me semble très liberticide. Tout le monde a droit à ses particularités et à les garder pour lui.
Bien. Je pense qu'on va, parce que sinon, effectivement, on va continuer ce débat longtemps. Donc, notre deuxième sujet, c'est toujours la loi de modernisation de l'économie. Parce qu'effectivement, Edwige, ça s'est produit en juin, et la loi de modernisation de l'économie, je n'ai déjà plus en tête quand, mais ça s'est produit un peu plus tard, c'est produit pendant les vacances, en été, et c'est quelque chose d'assez conséquent, puisque ça compte 175 articles, ça porte à peu près sur tous les codes, et je vais, pour donner une idée de ce que ça représente, je vais donner lecture du court résumé que donne le moniteur du bâtiment et des travaux publics. Pour Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, elle va faire souffler la loi, elle va faire souffler un vent de liberté en levant les blocages structurels que subissent tous les acteurs d'économie, entrepreneurs, consommateurs, épargnants, et plus, on voit qu'on va sûrement sombrer dans l'actualité très rapidement, consommateurs, épargnants et plus généralement l'ensemble des Français au service de la croissance et de l'emploi. Son impact annuel à compter de 2009 est évalué à plus 0,3% de croissance par an et à plus 50 000 emplois supplémentaires par an grâce à cette loi de modernisation de l'économie. Donc, le FMI, là on est déjà quand même à l'extérieur, et puis c'est apparemment un jugement d'un socialiste. Le FMI, disais-je, estime le gain de pouvoir d'achat à 1 000 euros par ménage en 2009, grâce à cette loi de modernisation de l'économie. La loi de modernisation de l'économie comporte 5 grands titres, 175 articles, pour deux objectifs essentiels, plus d'entreprises et plus de concurrence. Les mesures phares concernent la création d'un statut d'auto-entrepreneur, un droit des sociétés simplifié pour les PME et les très petites entreprises, la réduction des délais de paiement entre entreprises, également figurent des dispositions destinées à favoriser la reprise et la transmission d'entreprises, la mise en place de nouvelles règles du jeu dans la grande distribution. Et on voit d'ailleurs, on verra tout à l'heure à propos de nouvelles règles du jeu dans la distribution, qu'il y a quelque chose d'étrange, il y a un article concernant l'aide au petit commerce et immédiatement dessous, il y a un article concernant la grande distribution. Donc, règles du jeu de la grande distribution et renforcement des aides en faveur du commerce de proximité. Ben voilà, d'ailleurs, j'aurais lu jusqu'au bout. Parmi les mesures, dans celles qui sont directement applicables, on trouve donc un certain nombre. Alors, la question que je me pose, c'est, il s'agit d'une loi votée, qui se veut très influente, qui on a des lois, ben, elles concernent tel ou tel public ou tel moment de la vie. Celle-là concerne apparemment tous les publics et un petit peu tous les moments de la vie. On est plus ou moins tous entrepreneurs avant, on est en tous les cas tous consommateurs. Déjà, la première question que je poserai, puisque c'est une loi qui a été votée cet été, on est dans l'automne bien avancé, sait-on à quel rythme sortent les décrets d'application? Puis après, on va revenir sur la loi elle-même et l'actualité, bien sûr. Est-ce que véritablement cette loi est en train de s'appliquer ou pas? L'attaché parlementaire, il devrait être au courant, lui, quand même.
Sur cette loi, je pense que sur certains points, peut-être on ira vite, sur d'autres ça prendra plus de temps, parce qu'il y aura des blocages. Je vais prendre un exemple, c'est sur la création du statut de l'auto-entrepreneur. Alors c'est la création d'un statut supplémentaire, aujourd'hui on a des millefeuilles de statut pour ceux qui veulent créer une entreprise. Et ces futurs auto-entrepreneurs, ils vont être exonérés de certaines charges, fiscales notamment, et pour ça il faudra de l'argent, et donc il y aura des soucis à certains endroits. Mais vous parlez de ce que disait Madame Lagarde sur cette loi, c'est pas la liberté, c'est encore plus une déréglementation des pratiques commerciales. On en connaît depuis longtemps, et là on accentue en matière de grande distribution. On se rend compte au final que le compte n'y est pas pour les consommateurs, et que c'est vraiment la grande distribution qui, une fois de plus, va s'en sortir gagnant. Et on oublie aussi de parler des producteurs, parce que les producteurs qui fournissent la grande distribution aujourd'hui, ils ne seront pas assurés avec cette loi qui dite de modernisation de l'économie d'avoir des financements suffisamment importants. Aussi, moi j'y vois un point regrettable, c'est sur le financement de la formation professionnelle. Il y a des seuils qui sautent au niveau de déclenchement. Normalement, il y a un financement par les du monde du travail de la formation professionnelle. Et là aussi, il y aura des manques à gagner sur ce dispositif-là. Et aussi, on parlera aussi de l'installation des grandes surfaces aujourd'hui qui pourront plus se faire plus facilement.
Alors, sur le point, j'observe qu'on n'a pas répondu sur les décrets. On sait que ça ne sera pas facile pour tous. Monsieur Canac, les décrets, on
non,
sait où ils en sont.
Je voudrais simplement vous amener un élément d'éclairage. Je suis étonné d'ailleurs que l'attaché parlementaire ne soit pas au courant de ce point-là. Pour répondre très précisément à votre question, sur cette loi de modernisation de l'économie qui effectivement revêt bon nombre d'articles et donc nécessite beaucoup de décrets d'application, le ministère de l'économie et Mme Lagarde tiennent à jour sur Internet, donc visible par tout un chacun, un tableau de bord de la mise en œuvre de cette loi de modernisation nucléaire. Donc, nous avons le tableau de bord de suivi de la mise en œuvre des différents articles avec les décrets d'application qui en découlent.
Donc, reportez-vous au... Alors, on va rentrer dans le détail on a parlé de l'auto-entrepreneur. Et je vois, l'auto-entrepreneur peut s'acquitter forfaitairement de ses charges sociales et de ses impôts uniquement sur ce qu'il gagne, mensuellement ou trimestriellement. Forfait de 13% pour une activité commerciale, 23% pour une activité de service. Le versement est libératoire des charges sociales et de l'impôt sur le revenu. De plus, l'auto-entrepreneur n'est pas soumis à la TVA. Micro-entrepreneur qui choisit... Alors ça, c'est pas une nouveauté, hein. Le micro-entrepreneur n'était pas soumis à la TVA. En revanche, le forfait de 13 et 23% toutes charges et impôts confondus, pardonnez-moi, chacun voit un peu midi à sa porte, mais je suis moi-même très petit entrepreneur, et ça ne me concerne pas puisque je suis créé, mais ça paraît pas inintéressant.
Oui, si vous voulez, avant peut-être de rentrer dans le détail.
Pour le modem.
Oui, avant de rentrer dans le détail de cette loi qui est quand même très, très complexe, très complète. Quelques remarques un peu globales, si vous le voulez. Ça ressemble quand même beaucoup à un catalogue à la Prévert, hein, où on a toute une série de dispositions très, très précises et qui concernent pas mal de catégories de personnes. Ceci dit, sur les objectifs, évidemment, on ne peut être que d'accord à vouloir faire progresser notre économie. Les intentions, à mon avis, sont souhaitables, sont bonnes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est regarder dans le détail l'application de ces intentions. Alors, sur la globalité, on a du mal à travers cette loi à avoir quand même une vision globale de la société qu'on nous propose. Vous avez relevé tout à l'heure quelques incohérences entre effectivement peut-être le commerce de proximité et puis l'augmentation, la facilité d'installation de grandes surfaces. On peut douter également compte tenu de l'actualité, de la durabilité de cette loi. Est-ce qu'elle sera durable? Voilà, c'est une question que je peux poser. Et nous autres Modem, mouvement démocrate, qui sommes très européens, je crois que c'est une loi franco-française. Et il manque, de toute évidence, cette dimension européenne, dont on a vu les résultats quand on veut bien travailler au niveau européen, qui peuvent être tout à fait intéressants. Alors, je pense que sur le marché dit européen, on a énormément de progrès à faire et je regrette que tout au long du travail qui a été fait sur cette loi, on n'ait pas abordé cet aspect européen. Voilà. Et puis alors, je voudrais pas être provocateur, mais je voudrais lancer un petit peu un sujet là-dessus. On a vu les catastrophes que les subprimes ont amenées aux États-Unis puis au monde, en accordant trop facilement des crédits à des gens qui ne pouvaient pas les rembourser en escomptant un progrès immobilier qui n'a pas eu lieu. Je voudrais faire le parallèle avec la facilité peut-être un peu trop grande dans laquelle on va entraîner certains entrepreneurs qui n'auront pas forcément la capacité ou l'accompagnement nécessaire. Alors je dis, faisons attention quand même à cette chose-là. Et ce qui manque, ceci pour dire que ce qui manque dans cette loi, c'est toute une série quand même de mesures d'accompagnement qui auraient pu être envisagées pour les nouveaux entrepreneurs. Voilà. Donc c'est une vision un peu globale et puis on pourra rentrer dans le détail.
Alors sur les bonnes intentions. Je n'ai pas été surpris de voir M. Vaste, pour un parti communiste, avoir quelques mouvements de physionomie. Donc déjà sur ses intentions de cette loi de modernisation de l'économie, puisque vous semblez même contester les intentions. Alors je suppose qu'après, la forme...
Je ne conteste pas qu'il y ait des intentions. C'est clair qu'il y a des intentions. Premièrement, le texte n'est pas très facile à lire pour quelqu'un qui n'est pas administrateur ou juriste. Mais enfin, quand on y arrive, il y a de bons items qui simplifient les choses, etc. Mais la coloration générale, c'est ce qu'on peut tirer du rapport Attali, et c'est en avant vers le néolibéralisme à l'américaine. L'ennui, c'est que le dit néolibéralisme n'est pas en ce moment en phase tout à fait ascendante. Et je pense qu'on ne peut pas d'ailleurs finir la réunion sans parler un petit peu plus globalement de d'où on va. Parce que quand on a une vague de tsunami qui nous arrive, il ne faut pas trop s'occuper de l'écume de la vague, mais de la force de la vague. Encore que mon image soit pas très bonne, parce que ce qui nous arrive n'est pas dû à une cause naturelle. Mais je crois qu'il faut qu'on en parle de ça. Et que ça, le reste... Pour moi, c'est un peu de l'écume de la vague qui avance et qui est en train de tout ravager.
Alors, est-ce que la loi de modernisation de l'économie, est-ce que elle est complètement sur le rivage ou est-ce que elle va nous aider avec une meilleure gouvernance, un peu plus de floptabilité par rapport au tsunami, monsieur Knack?
Et je crois que quand on connaît le volontarisme du président de la République, on ne peut pas imaginer un seul instant que cette loi soit mise sur le bord du bureau et qu'on la ressorte dans quelques mois, quand les choses iront un petit peu mieux.
Mais est-ce qu'elle va servir à quelque chose dans le contexte?
Je suis convaincu qu'elle va servir à quelque chose, d'autant plus qu'elle devance presque le contexte. Vous savez, replongeons-nous 4-5 mois en arrière. Il y avait effectivement la crise des subprimes aux États-Unis. On avait les économistes, les grands observateurs, le Fonds monétaire international avait entre ses mains des éléments qui auraient pu faire penser qu'une crise comme celle que nous vivons aujourd'hui, elle est arrivée, personne n'en a parlé. Personne, il y a 4-5 mois, n'a écrit, n'a dit qu'il allait se passer au mois d'octobre ce qu'on vient de vivre. Et là, je nous mets tous dans le même sac. Et j'y joins d'ailleurs les grands experts, les grands économistes mondiaux, qui aujourd'hui pourtant font des projections à fin 2009. Cette loi de modernisation de l'économie, elle a été votée, les premiers décrets d'application sont parus donc au mois d'août, suite à la crise des subprimes et suite au premier frémissement de la crise. Il n'est pas du tout question de la laisser de côté, libérer l'entreprise des contraintes qui pèsent sur elle aujourd'hui pour la création, pour le fonctionnement, pour la donation, etc. Ce sont des choses qu'il faut faire. Si ça s'appelle modernisation de l'économie, cela veut dire que peut-être ça n'a pas été fait suffisamment tôt. Aujourd'hui, on modernise.
Parce qu'en même temps, ça s'agit tout à fait naturellement autour de la table. Alors, comme vous êtes le seul représentant positif...
C'est un contre 5, oui. Contre 4, pardon. Peu.
Mais la dimension européenne...
Je ne suis pas négatif.
Sur la dimension européenne qui vous a été reprochée, l'absence de dimension européenne qui vous a été reprochée...
Alors, je rejoins mon collègue Génaudet sur la problématique européenne et je suis sûr qu'il va me rejoindre quand je lui dirai que quand l'Europe travaille comme elle l'a fait, notamment sur le plan de redressement des grandes banques, le plan du G25, hein, qui a été proposé et voté à l'Assemblée nationale par le MoDem, les socialistes sont abstenus, manifestant encore une fois un grand courage politique. Je pense que quand l'Europe avance unie et soudée sur des objectifs bien précis, eh bien l'Europe a tout à y gagner et les Européens et les Français ont tout à y gagner.
Je suis complètement heureux de l'entendre dire, bien entendu. Et c'est d'autant plus la raison pour laquelle je regrette ce manque de dimension européenne. Je voudrais quand même rappeler quelques petites mesures ponctuelles. Ça m'étonne qu'on en soit encore à légiférer au XXIe siècle, n'oublions pas. On est encore à légiférer sur la protection du patrimoine privé de l'entrepreneur. Il me semblait que moi, c'était quelque chose qu'on avait résolu dans les lois précédentes. Or, apparemment non, puisqu'on en parle. Et puis également sur les délais de paiement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est encore en train de légiférer sur les délais de paiement. Alors, je crois qu'on ne met pas en doute l'énergie de notre président.
C'est vrai que depuis que je sais lire, je vois des dispositions concernant les délais de paiement.
Voilà. Alors, on peut douter un peu, peut-être, malgré son énergie, d'une certaine efficacité de son administration à arriver au résultat.
Vous savez, Nicolas Sarkozy est à son poste depuis 18 mois.
Alors, monsieur Calmette, vous avez demandé... Alors, on était donc sur... On va venir sur la crise et les dispositions qui sont prises, mais sur cette loi de modernisation de l'économie et sur ce que j'ai pu en dire.
Oui. Alors moi, je ne dois pas avoir les mêmes lectures que M. Canac, parce que moi, ça fait quand même des années que je sais qu'il y a une bulle spéculative. Bon, on le lit pas dans la Tribune, ni même les Échos, peut-être, mais moi, je le lis dans Alternative économique, dans Politis, je le lis dans Le Monde, et on sait qu'il y a une bulle spéculative depuis des années qui va nous exploser. Alors bon, concernant cette loi, bon, c'est juste un pas de plus de la mise en place de cette politique ultralibérale que met en place Nicolas Sarkozy et qui contient en fait tous les dogmes du capitalisme et de cette société de marché, pas de l'économie de marché, parce qu'on est dans une société de marché. Alors le dogme de l'entreprise individuelle comme seule créatrice de richesse, le dogme bien sûr de la croissance du produit intérieur brut, alors consommation à outrance, avec ce que ça amène bien sûr, le dogme de la concurrence bien sûr qui est changé, qui doit normalement tout réguler la concurrence avec l'augmentation de l'installation de supermarchés, et il y a même un petit dogme sur le colonialisme, puisqu'on est la mesure 21 parle de piller les pays étrangers, notamment les plus pauvres, de leur cerveau.
Alors, oui, encourager en l'installation en France de cadres étrangers de haut niveau.
Voilà.
C'est le titre résumé de la mesure 21.
Le terme piller ne figure quand même pas dans la loi.
Non. C'est pour ça, justement, elle est encore plus hypocrite.
C'est M. Calmette qui l'ajoute.
Je l'ajoute, oui. C'est mon interprétation.
Ben, on peut la lire, hein, lire du moins le résumé que j'en ai sous les yeux, parce que ça réfère, il y a 175 articles, et ça a été résumé en 30 mesures. Alors, la mesure 21, l'avenue en France de cadres étrangers de haut niveau constitue un plus pour le dynamisme économique de la France. La loi introduit une incitation fiscale à l'avenue de salariés provenant de l'étranger, à l'étendre le régime existant au recrutement direct de salariés à l'étranger. Par ailleurs, elle confère au préfet la possibilité de donner à certaines personnes un titre de résident, leur permettant de séjourner avec leur famille sur le territoire pendant une durée de 10 ans.
On va avoir moins de sans-papiers.
Voilà. On choisit les sans-papiers, là.
Oui.
Oui, je voulais répondre à Monsieur Canac sur la. Sur la relance soi-disant de l'économie française avec cette loi de modernisation, vous oubliez, Monsieur Canac, que le problème en France, c'est pas la création d'entreprises, mais c'est la survie. Aujourd'hui, on a un taux de création d'entreprises en France qui est très satisfaisant. Le problème, c'est que au bout de plusieurs mois, de plusieurs années, des problèmes notamment de trésorerie ou d'autres mettent à mal ces entreprises-là et elles conduisent elles sont obligées d'arrêter leur activité et de mettre à la porte leurs salariés. Sur la question de l'Europe, vous dites que les socialistes ont voté contre. Les socialistes votent contre quand les mesures vont à l'encontre d'une Europe sociale et écologique qu'on ne voit pas venir jusqu'à présent. Et je rejoins aussi M. Calmette sur les nombreux experts économiques qui disent depuis des années que le système marche sur la tête. Ça, c'est pas nouveau. Donc on le sait. Après, maintenant, est-ce qu'on veut proposer autre chose et dessiner notre projet économique pour l'Europe et pour le monde? Ça, c'est à discuter. Et en matière de grande distribution, parce qu'on n'a pas parlé, j'ai pas eu le temps tout à l'heure de le développer, le problème quotidien aujourd'hui des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et moi, je regrette qu'on fasse pas la vraie réforme qu'on doit faire en matière de grande distribution, qu'on travaille pas au niveau des prix qui sont proposés aux clients qui sont abusifs. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui se met l'argent dans la poche, c'est bien ces grands groupes de supermarchés qui aussi vont alimenter toute cette spéculation financière qui...
Il y a quelques fournisseurs de produits alimentaires qui sont pas tristes non plus. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans certains yaourts, l'étiage a baissé. C'est le même emballage, c'est presque le même prix. Ça a quasiment pas augmenté, c'est magnifique, mais les quantités sont moindres. Voilà. Je sais pas si les supermarchés ils sont pour quelque chose, là, mais ils sont pas tout seuls, quoi.
Oui, le problème c'est qu'on travaille pour les prix qui sont proposés aux clients et aussi aux fournisseurs, parce qu'aujourd'hui les petits producteurs de fromage aveyronnais ou de veau d'Aveyron, ils ont de plus en plus de difficultés à proposer leurs produits parce qu'on leur en demande trop cher. Et ce qu'on voit se profiler avec cette loi, c'est le développement du hard discount de 1000 mètres carrés de grandes surfaces. Et ça conduit bien à une politique globale, c'est du hard discount, d'une société low cost où on aura des travailleurs à bas prix et on aura une vie à bas prix pour ceux qui n'ont pas les moyens.
Alors je voudrais revenir sur le... Monsieur Canac nous a dit, mais au fond cette loi, le G25 est allé tout à fait dans le sens de cette loi et cette loi s'adapte tout à fait bien aux dispositions compris les pays européens justement, c'est magnifique, c'est européen. Monsieur Genaudet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Est-ce qu'effectivement, les mesures prises par le G25, alors il faut rappeler que c'est une mobilisation de fonds pour d'abord soutenir le système bancaire, organiser les monnaies entre elles. Est-ce que vous pensez que ce sont de bonnes dispositions et qu'effectivement, ça réfère un peu à la loi de modernisation de l'économie? Monsieur Vast.
Bon, je crois qu'il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. On ne va pas les critiquer parce qu'effectivement, il fallait faire quelque chose, bien que ça soit extrêmement choquant pour beaucoup de gens à travers le monde, de renflouer des banques qui ont mené un jeu pareil. Mais ceci dit, le but politique n'est pas de jouer les pompiers, mais de prévoir. Et effectivement, les bulles finalement... Attendez... Par nature, on sait très bien que les enquêtes faites à un moment donné, ce qui se joue en bourse est 2, 3, 4 fois plus élevé que les richesses réelles. Donc c'est forcé qu'il y ait des bulles qui éclatent régulièrement. Et il y a des crises à peu près tous les 4 ans depuis que le capitalisme existe, hein, dont certaines plus graves que d'autres. Mais enfin, bon. Donc ça, c'est pas une surprise. Mais la caractéristique du néolibéralisme, c'est d'avoir fait sauter tous les verrous et toute règle de jeu. Et malheureusement, y compris la loi de modernisation, est quand même de la couleur de cela, ainsi que le rapport Attali. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Parce que donner de l'argent aux banques, à un moment donné, au niveau de leurs capitaux propres et au niveau, soi-disant, contrôlé par un modérateur, pour aider les PME, c'est une chose. Mais ça revient quand même à les relancer dans le même jeu boursier et financier. Il n'y a pas de règle très stricte qui empêche cela.
Sur ces jeux boursiers, moi j'ai une question, mais que je suis prêt à poser à tout le monde. Je la pose d'ailleurs en fait en privé à tout le monde. Comment se fait-il que tout à chacun ne se satisfait pas des 4% du livret A ? Parce que tant que tout un chacun ne se satisfera pas des 4% du livret A, il faut bien trouver moyen de donner du 10 aux petits épargnants et du 18 au fonds de pension américain. Et il n'y a qu'un moyen, c'est de faire joujou avec les bulles. Voilà. Enfin, vous me contredisez, hein, c'est pour ça.
Oui, oui. J'avais la parole, je continue. J'ai entendu ça aussi à la télé. Hein. Nous sommes tous des spéculateurs. Ben, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que c'est vrai que le capitalisme a des bases solides, puisqu'il est basé sur l'avidité, l'égoïsme et tout. Mais il faut dépasser ça, parce qu'on vit en société. Et on ne peut pas mettre face à face... Madame Thatcher disait « La société n'existe pas, il n'y a que des individus ». Oui. Enfin bon, c'est quand même profond hein, comme pensée. On ne peut pas mettre au même niveau des gens qui, personnellement, aimeraient mieux gagner un peu plus, et des masses financières très considérables, de fonds de pension, des multinationales, etc. Ça n'a pas du tout les mêmes résultats. Le marché n'est ni libre ni concurrentiel, il est manipulé. C'est évident. Tous les dogmes ou les rêves ou les cauchemars d'ailleurs du néolibéralisme reposent sur c'est faux. Tout ce qu'ils disent est faux. Les échanges à libre avantage, c'est faux. Regardez les pays d'Afrique, regardez, etc. Le marché libre et concurrentiel, mais ça n'est pas vrai. Il est manipulé par des puissances économiques qui dépassent de très loin la puissance des États. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. On n'est plus dans le cadre du libéralisme après la Révolution française ou du 19e siècle. Le monde a complètement changé. Et il faut en prendre la mesure si on veut arriver à maîtriser les choses, à mon avis. Hein.
Alors, oui, monsieur Allais pour le modem, vous qui, si je ne me trompe pas, les individus sont des personnes.
Vous m'entraînez, voilà, tout à fait. Vous m'entraînez sur un terrain qui nous est très cher, c'est celui des valeurs, hein, c'est bien évident. Et je vais rebondir très, très facilement, je dirais, sur ce terrain des valeurs, bien évidemment, hein, puisque à travers cette loi, on voit bien que la valeur fondamentale qui est proposée derrière, c'est effectivement d'augmenter le meilleur fonctionnement possible du capitalisme. Et dans le mot capitalisme, il y a bien entendu le mot capital. Et quand on se dit, mais pourquoi est-ce que les gens s'enrichissent, ont envie de s'enrichir, ont envie de dépasser les 4%, tout simplement, c'est un problème de valeur. Hein, et voilà. Alors, dans notre projet, et vous m'entraînez, je vais déraper par rapport à la loi, dans notre projet Mouvement démocrate, nos valeurs sont des valeurs humanistes. C'est-à-dire que dans le mot humaniste, vous avez le mot humain, c'est-à-dire de mettre l'homme, si vous voulez, dans notre projet. Voilà. Alors, il faut faire attention à travers une loi comme celle-ci, qui a de bonnes dispositions, bien évidemment. Hein. Quand on réduit les délais de paiement, je l'ai déjà dit, c'est tout à fait intéressant. Hein. Mais quelle est la valeur qui est proposée derrière ? C'est effectivement une valeur très consumériste, hein, vers une société qui ne dépassera pas ce cadre consumériste. Et nous autres, nous avons l'ambition de porter des valeurs beaucoup plus humanistes. Hein, bien entendu, l'économie doit fonctionner, mais elle ne doit pas être au centre complet de nos préoccupations.
Excusez-moi, mais vous vous en tirez à bon compte. Parce que on a de meilleures intentions. Vous venez de nous dire, nous, on est mieux intentionnés. Il faudrait peut-être nous donner quelques détails quand même.
Je veux bien vous donner quelques détails. Et par exemple, prenons le travail du dimanche. Voilà un excellent exemple que tout le monde peut très bien comprendre. Dans une société capitaliste, la question du travail du dimanche ne se pose pas, puisque la valeur, c'est le capital, donc cherchons à accroître le capital, donc à travailler tous les jours. Dans une société humaniste, on se préoccupera au moins une fois par jour hein, de valeurs un peu plus humanistes. On essaiera de rassembler les familles, on essaiera d'aller voir les grands-pères, etc. Et donc, on s'efforcera dans l'organisation de cette société. Alors, vous me direz peut-être que c'est très idéaliste, hein, mais c'est la société dans laquelle nous fonctionnons actuellement. Donc, à ce moment-là, le travail du dimanche sera peut-être plus difficile à mettre en œuvre. Voilà un exemple qui me paraît assez concret.
Alors, les verts sur ces dispositions européennes qui ont été prises, Monsieur Calmette, sur ce G25 qui a donc aidé les banques,
oui, alors entre autres. Revenir un peu sur cette crise. Bon, effectivement, il fallait sauver le système bancaire, chose qui n'avait pas été faite en 1929, ne serait-ce que pour garantir un peu l'argent des particuliers que nous sommes. Mais on voit quand même qu'il y a des totales des mesures, puisque en tout, en France, on est en train de donner 400 milliards, que ce soit en garantie ou en aide, pour les banques et pour les entreprises, et aujourd'hui le président de la République a annoncé pratiquement rien du tout pour les particuliers, pour les salariés et pour les chômeurs. Voilà, il y a vraiment une grande différence. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi, il y a des chiffres qui me font, vraiment, je suis assis. Hier, j'entendais à la télévision que depuis le début de l'année, et notamment ces dernières semaines, il y a 34 000 milliards de dollars qui ont disparu, qui se sont volatilisés à cause justement de cette chute. 34 000 milliards, c'est incroyable. Alors je dis, si on avait simplement taxé ces 34 000 milliards quand on les avait à 1%, eh bien on aurait vaincu la fin dans le monde, quoi. Hein. Alors je crois qu'il faut qu'on arrive à une économie de marché qui soit beaucoup plus humaine, comme le disait Monsieur Genoudet. Il faut que vraiment nous arrivions à vivre ensemble et que l'argent... passe au deuxième plan.
Monsieur Canard, vous pensez qu'on arrivera à... par la loi ou d'autres raisons?
Je suis convaincu que toutes les situations, vous savez, se ressemblent. Et nous, à l'UMP, on a toujours dans l'idée d'analyser les choses, de bien regarder ce qui s'est passé, puis d'en tirer des enseignements pour l'avenir. C'est ce que le président de la République a déjà fait par rapport à la crise que nous sommes en train de vivre et qui manifestement commence à s'estomper un petit peu, même si les choses sont encore relativement...
La crise financière s'estompe un petit peu.
La crise financière s'estompe un petit peu. Puis vous savez, il y a des choses qu'on maîtrise absolument pas. J'écoutais la radio en vous rejoignant. L'action de Volkswagen aujourd'hui a gagné 72%. 72%.
C'est la seule.
Oui, c'est la seule. Enfin, elle a permis à l'indice boursier allemand d'être dans le vert aujourd'hui. Si elle avait gagné 10%, elle ne l'aurait pas permis. Donc on est un petit peu sur le virtuel ou l'irréel. Bon, vous le disiez tout à l'heure, l'économie subit comme le climat des cycles, et aujourd'hui nous sommes dans un cycle négatif, et de tout ce qui vient de se passer aujourd'hui, je crois qu'il faut en tirer un certain nombre d'enseignements. Le président de la République a pris un certain nombre de dispositions au niveau européen, nous venons d'en parler. Et puis je crois qu'il est déjà dans une autre dimension, c'est ce qu'il appelle la refonte du système économique mondial, la refonte du capitalisme, et cette grande réunion qui aura lieu aux États-Unis après que les élections américaines soient passées, donc en présence de l'ancien président et du nouveau président américain au mois de novembre, à l'initiative de Sarkozy et de l'Europe, je crois que ce sera un premier élément de réponse. On ne peut pas supposer encore aujourd'hui préjuger de ce qui sera dit ce jour-là, mais ce sera un premier élément de réponse à cette refondation du capitalisme que Sarkozy a appelé de ses voeux d'ailleurs dans la campagne électorale. Je vous rappelle qu'il n'a pas hésité il y a un an et demi, alors que la situation était quand même relativement sereine, a parlé très vertement des parachutes dorés. Il n'a pas hésité à ce moment-là de dire très clairement qu'il allait taxer de 2,5% les stock options. Je ne l'ai pas entendu dans la bouche des autres candidats aux élections présidentielles.
Monsieur Lacroix, pour une partie de ça, et puis on passera à un autre sujet après une pause musicale, mais...
Juste pour rebondir, si on croyait toutes les promesses de Nicolas Sarkozy et toutes ces allégations...
Je vous fournirai ce petit livre, vous verrez que tout est parfait.
Je peux parler aussi de Nicolas Sarkozy en train de dire « je privatiserai jamais le DF » et quelques mois après...
Monsieur Lacroix, je répondrai à ce que vous venez de dire.
On en reparlera.
Et je vous amènerai les éclairages sur ce sujet.
Très bien, je vous remercie monsieur le professeur.
À propos de DF, vous serez mis au courant.
Voilà. Je crois que vous dites il y a des cycles qu'on ne maîtrise pas. Moi, je crois qu'au Parti Socialiste, en tout cas, on croit qu'on peut anticiper beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... Oui, on peut anticiper les cycles...
Le congrès de Reims?
On n'est pas là en train de parler de... On peut parler aussi des dissensions à l'UMP si c'est, vous allez sur ce jeu-là. Nous, on va parler des...
Que peut-on anticiper?
Socialistes au congrès? Puisque c'est au concret, qu'est-ce que ça vous intéresse? Dans les régions, les socialistes investissent massivement dans les entreprises par le biais d'aides individuelles. De nombreuses régions, et j'en connais, je pourrais vous les citer, accordent des subventions aux entreprises à condition que les bénéfices soient réinvestis dans l'entreprise et non pas partir dans les bulles spéculatives dont on parle tout à l'heure, et à condition qu'il y ait des salaires décents pour les salariés et qu'on n'engendre pas à des délocalisations ailleurs.
Mais vous dites vraiment n'importe quoi.
Non, ça c'est du concret.
Non, c'est pas du concret, monsieur Lacroix.
La conditionnalité,
vous savez,
des subventions.
Moi, je suis salarié dans une entreprise. Je suis syndicaliste et je sais comment ça marche une entreprise.
Monsieur Canal, je vous ai laissé parler.
Les règles d'une entreprise sont régies par le Code du travail et accessoirement par une convention collective
ou
un accord d'entreprise.
D'aide
et la région n'interviendra absolument pas.
La région
intervient. Vous le savez aussi bien que moi.
La région intervient en matière d'individuel aux entreprises. Je peux vous le démontrer.
Mais pas en matière de salaire.
Je vous ai laissé parler tout à l'heure.
Mais pas en matière de salaire. Oui, mais il faut pas raconter n'importe quoi.
En tout cas, au Parti Socialiste, on est démocrate, on laisse parler les autres.
Mais moi, je vous laisse parler, mais je rectifie les erreurs
que
vous commettez.
Sujets, on peut parler aussi du bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, c'est 15 millions d'euros qui a été donné à des centaines de personnes en France.
Je vais vous répondre.
Alors, là aussi, il y a des choix à faire.
On a déjà, dans une autre émission, abordé les questions du bouclier fiscal. Et je souhaiterais qu'on aborde un autre sujet.
Alors, on va revenir sur l'intervention des banques. Tout le monde a vu que les socialistes se sont abstenus sur la mesurette qu'a fait voter le gouvernement sur l'investissement dans les banques publiques. Pourquoi ? Là, je rejoins l'analyse de Romain Vast. C'est que aujourd'hui, cette solution était nécessaire. Sauf que on n'a pas exigé certains points qu'il fallait fixer dans cette intervention-là. J'explique. Il fallait exiger une amélioration en matière de réglementation bancaire. Il fallait exiger de nombreux points, parce qu'aujourd'hui, en plus, les banques publiques n'en voulaient pas de cet argent, parce qu'on sait très bien que ça a conduit à la perte de leur cours d'action. Donc, on a donné de l'argent, plus des centaines de milliards d'euros, quand à côté, on n'est même pas capable de trouver 1 milliard d'euros pour financer le RSA, qu'en matière d'éducation, de formation, c'est des chantiers qui sont en train d'être laissés pour compte, alors qu'aujourd'hui, on a un taux de chômage qui n'a jamais été aussi élevé depuis 15 ans, alors qu'on a une situation qui devrait nous permettre de remplir les postes. Sauf qu'on n'anticipe pas, là aussi, monsieur Canac, on n'anticipe pas qu'il faut investir sur l'éducation, la formation pour avoir des salariés compétents, et ça sert aussi aux entrepreneurs d'avoir des salariés compétents.
Deux mots alors, monsieur Canac. Mais...
Deux mots sur l'école. Deux mots sur l'école. Vous savez, monsieur Lacroix, moi je suis un Français moyen, j'ai une famille. Oui, monsieur Calmette.
Oui.
Je suis un Français moyen, salarié.
C'est un peu démagogue comme discours.
Écoutez, amenez-moi des éléments.
J'ai dit deux mots. Alors, pour l'instant, on sait qui vous êtes. Enfin, on sait que vous nous avez expliqué que vous étiez syndicaliste, que vous, ici, vous représentez l'UMP. Vous répondez en rapidement sur ce qui vous a le plus...
Sur l'école, moi je suis effaré de voir, et là je pense que tout le monde peut se rejoindre sur ce point-là, je suis effaré de voir que des jeunes qui sortent du CM2 et qui rentrent en 6e sont encore illettrés. Ce n'est pas normal.
Sur ça, on est
je ne dis rien.
Je ne dis rien
à l'encontre des enseignants.
Vous
allez voir que je vais être rapide. Il y a un problème au niveau du système éducatif. Il n'est pas normal non plus qu'un jeune qui a 18 ans, qui va passer le bac, ne soit pas foutu, pardonnez-moi l'expression, de faire une phrase correctement avec un sujet, un verbe, un adjectif, un attribut. Ça, ce n'est pas normal. Et pour remédier à ces choses-là, et pour montrer à M. Lacroix que Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation nationale, ne brade pas l'enseignement, bien au contraire, il y a deux mesures extrêmement importantes qui ont été prises cette année. La première, c'est l'accompagnement éducatif pour le primaire, et la deuxième, c'est la réussite scolaire pour le secondaire. Ce sont deux mesures qui ne sont pas révolutionnaires, qui sont des mesures de bon sens, qui vont aider celles et ceux dont je vous parlais aujourd'hui, qui connaissent les difficultés.
Un autre sujet.
Ça sera avec plaisir.
On a donc cette réponse sur l'éducation. Et je souhaitais qu'on... Non, parce que sinon on ne pourra pas. Donc je souhaitais qu'on aborde un autre sujet. Vous avez d'ailleurs, hors micro, été tous d'accord pour que nous en parlions, puisque la chronique à Villefranche a été défrayée et le MoDem, donc on lui donnera la parole, puisqu'il y a eu un communiqué de presse à propos de
péripéties concernant la construction de la gendarmerie. Si j'ai bien compris, cette construction est arrêtée. Elle avait été confiée à un promoteur qui, en matière de logement, a utilisé un système de logement avec défiscalisation. Et pour les bureaux, là, j'avoue que je n'ai pas absolument tout compris. Alors, celui qui en a parlé le plus notoirement, c'est le MoDem. Donc, Monsieur Jeannet, on vous écoute un petit peu rapidement pour poser le problème de cette gendarmerie. Au moins, ce que je voudrais, c'est déjà, en dehors du débat politique éventuel, qui peut surgir, peut-être même pas d'ailleurs, mais qu'on informe les auditeurs qui comprennent quel a été le système mis en place.
Bon, écoutez, alors sur effectivement cette affaire de la gendarmerie, la grosse difficulté, c'est d'obtenir l'information. Donc, tout ce que je vais dire, bien entendu, je le dirai au conditionnel et sous la forme de questions pour lesquelles nous attendons des réponses. Alors, pourquoi est-ce que nous posons des questions ? Parce que, effectivement, cette affaire de gendarmerie nous a toujours été présentée comme étant une affaire privée, hein, qui avait été conclu entre deux parties qui sont un promoteur immobilier et qui sont, si j'ai bien compris, des investisseurs, hein, et il y avait quand même une troisième partie qui est dans le dispositif, si je l'ai bien compris, c'est les services immobiliers, je crois, de la gendarmerie nationale qui s'engageaient à régler des loyers, hein, pour la mise en place à la fois de ces parties techniques et administratives liées à sa fonction et au logement de ces gendarmes.
Moi, j'ai une première question. Qui s'est adressé à un promoteur pour construire des bâtiments devant héberger les bureaux et les logements d'une administration ? C'est le ministère des Armées.
C'est un promoteur qui s'est engagé.
Quand on veut héberger des gendarmes.
Oui, à construire.
On se tourne.
Quand il s'est agi de construire la gendarmerie de Villefranche-Jouergue, c'est un dossier qui se traite avec les services de l'État. Et ce sont les services du ministère qui ont orienté un promoteur, un constructeur, vers la mairie de Villefranche-Jouergue.
Voilà. Mais la mairie, jusqu'à présent, n'est pas partie prenante dans cette affaire-là. Elle a instruit un dossier.
C'est
de
un promoteur
de
privé.
Voilà. Alors, c'est un promoteur
qui a été sollicité par l'État.
Tout à fait.
Et on sait pour quelle raison, parce que je peux prendre l'exemple de la gendarmerie de Nocelles qui est en construction, où c'est pas un promoteur privé qui est.
Je sais pas, je pourrais pas.
Vous savez pas sur quels critères les services de l'État ont décidé de confier un chantier aussi important à un promoteur privé ?
J'ai pas l'élément de réponse.
Alors je, si vous permettez, je continue peut-être sur ce dossier-là. C'est une affaire privée, donc c'est chaque fois que j'ai essayé de poser des questions, c'est la réponse qu'on m'a faite. C'est une affaire privée entre un promoteur et éventuellement la gendarmerie ou des investisseurs. Bon, moi, je n'ai rien à dire là-dessus, je ne dis rien. Et puis, on apprend récemment dans la presse, on voit quand même venir le défaut de ce promoteur qui n'est plus en mesure. Et tout à l'heure, vous parliez d'incidents. C'est plus que des incidents. C'est quand même très grave, hein, puisqu'il y a des
péripéties.
Péripéties. Ce ne sont pas des péripéties, puisqu'il y a quand même des entreprises villefranchoises qui sont en dépôt de bilan ou tout au moins en limite de dépôt de bilan, pour lesquelles les travaux qui ont exécuté des travaux qui n'ont pas été réglés. Alors. Affaires privées, ok. Mais on voit récemment dans la presse l'annonce par la municipalité du rachat des bâtiments, de deux bâtiments, qui sont le bâtiment technique et le bâtiment administratif, pour une somme que moi j'estime rondelette, hein, sur fonds publics, bien entendu. Alors, à partir de ce moment-là, bien évidemment, de privé, cette affaire devient publique. Et nous posons un certain nombre de questions, hein, depuis, je dirais même, l'instruction du dossier, hein, jusqu'à la situation actuelle. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des questions, parce qu'elles sont très nombreuses, hein, mais je pense que la municipalité a annoncé une décision exceptionnelle. Je pense que la population villefranchoise et nos adhérents auront du mal à comprendre cette décision et à y adhérer, bien entendu, si les explications que nous avons demandées ne sont pas apportées.
Je veux juste dire que, historiquement, ça n'est pas nouveau qu'une gendarmerie soit hébergé, soit locataire d'un propriétaire privé. C'était quelque chose de très répandu. Parenthèse. Hein. Vous avez des éléments, Monsieur Canac ?
Écoutez, moi, les questions techniques et pratiques, je pense que les réponses qui ont été amenées par le maire de Villefranche au cours des dernières réunions qui ont eu lieu sont suffisamment claires.
Je dirais que, si vous voulez bien.
Je dirais qu'il y a quand même deux choses importantes à dire sur ce dossier. C'est que je trouve assez inconvenant de polémiquer sur ce type de problème. Premièrement. Deuxièmement, je sais, pour l'avoir pratiqué, puisque j'ai travaillé quand même 10 ans avec Serge Roch, que quand une difficulté se présente sur un dossier, il ne lâche pas le bébé comme ça. Et si ça peut vous rassurer, je puis vous dire que le règlement de ce dossier est en très bonne voie. Ce n'est pas à moi à annoncer les raisons de ce règlement en bonne voie. Il le dira lui-même, mais je sais que ce dossier sera prochainement réglé. Dernière chose, ce dossier, c'est l'archétype des dossiers sur lesquels, parce qu'ils sont difficiles, il est important de rester discret pendant un certain temps, pendant la période de règlement du dossier. À tout étaler sur la place publique, on n'y gagne pas. Et la discrétion et la modestie, parce qu'on ne maîtrise pas tout. Je ne pense pas qu'on puisse accuser le maire de Villefranche des déboires qui aujourd'hui arrivent sur ce dossier-là. Il n'y a absolument pour rien, mais c'est quand même à lui à régler le problème in fine. Donc il le réglera, c'est en très bonne voie, et vous verrez que dans très peu de temps, on ne parlera plus des problèmes de la gendarmerie de Villefranche-Jouergue, et on sera très content, au contraire, dans quelques mois, d'inaugurer une superbe construction à l'entrée de la ville.
Alors, monsieur Lacroix, on a bien compris quand même que, initialement, c'est l'État qui a traité avec un promoteur privé. Est-ce que vous avez des informations?
Ah, moi, j'étais pas dans le secret des couloirs du ministère, donc j'aurais rien à vous donner d'informations là-dessus. Je crois quand même, c'est pas une histoire de polémiquer. Sauf que ce qui est révoltant aujourd'hui, c'est qu'il y a une situation des artisans qui est telle qu'on ne peut pas dire on n'en parle pas ou on attend de voir. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, je parlais tout à l'heure de problèmes de trésorerie, il y a des entreprises, et pas seulement à Villefranche, mais dans le Grand Villefranchois, qui ont des soucis. Et dès qu'il y a de l'argent public qui doit être investi là-dedans, on doit avoir la transparence, et même sur la démarche des informations, les commissions, tout ça, la mairie, et même les citoyens doivent être informés sur plus, on parle de plusieurs millions d'euros, qui vont être investis dans ce projet. Et on est tous d'accord ici pour trouver une solution à ce problème-là.
Eh bien, écoutez, vous applaudirez des deux mains dans quelques jours, quand Serge Roch vous annoncera la bonne nouvelle.
Monsieur Vast, puisque tout le monde était d'accord pour parler de ce sujet, mais personne n'a d'informations dessus. Donc vous en savez plus que les autres,
bien,
ou pas, monsieur
bien,
Vast?
C'est bien la difficulté.
Moi j'ai un point commun avec monsieur Serge Roch, peut-être plusieurs. Hein. C'est que je n'aime pas lâcher un dossier difficile quand je le tiens. Et je voudrais quand même dire deux, trois mots sur le néolibéralisme. On est au bout ? Je veux dire, il y a eu un sondage CSA...
En faites-vous une la gendarmerie est-elle une illustration du néolibéralisme pour vous ? La gendarmerie est-elle une illustration du...
Non, je ne voudrais pas me retrouver dans le dossier Edwidge. Je suis le dossier avec beaucoup d'intérêt, mais je n'ai pas d'idée particulière.
Bon, alors, donc vous voulez absolument conclure en dehors du sujet de la gendarmerie. Très bien. On vous écoute, monsieur Vast.
Bon, je veux dire, c'est un système, on va pas... le sondage CSA montrait que 55% des Français pensaient qu'il fallait vraiment faire quelque chose de fondamental pour maîtriser le capitalisme financier. Bien, on sait tous les malheurs qu'il cause, les inégalités, 1 milliard de gens dans la famine, indirectement, il y a la sécheresse, mais il y a aussi ça, etc. Bon, laissons ça. Il y a des mesures à prendre pour museler le fauve. On en a proposé 6, on ne va pas pouvoir les étudier aujourd'hui. Maintenant, je voudrais que les gens se mettent quand même dans la tête que les richesses réelles du monde, c'est du travail cristallisé, comme disait Marx. Et que les producteurs de cela, ils ont à être fiers. Et que je voudrais quand même faire appel aux paysans, aux ouvriers, aux employés qui donnent des services, etc., pour qu'ils s'intéressent à la crise et qu'ils essaient de comprendre ce qui se passe et d'agir pour que ça s'arrête.
On essaie de s'y employer. Je vous remercie beaucoup. C'était donc Table Ovale. On se réentendra tous dans un mois. Table Ovale sans ellipse en CFM.